VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, les forces de sécurité occupent les points stratégiques de la capitale Bujumbura et ratissent les quartiers contestataires à la recherche d'éléments armés. Après les attaques menées par des insurgés ce matin contre deux camps militaires dans le nord et le sud de la ville. L'ISCAM, l'école des officiers burundais et le camp de Ngagara. Selon les autorités, les assaillants de l'ISCAM ont été repoussés et ceux du camp de Ngagara neutralisés. Des tirs sporadiques continuent dans la capitale. J'ai joint notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Tout à l'heure, Bujumbura était sous les feux. On entendait des tirs, surtout dans les quartiers contestataires, dans les quartiers de Moussaga, de Ngagara, de c'était presque toute la ville. Mais maintenant, les tirs ont diminué d'intensité. On entend sporadiquement des tirs dans certains quartiers. Il y a des militaires, des policiers de l'appui pour la protection des institutions qui est en train de ratisser dans ces quartiers contestataires. Quand ils passent, les policiers, ils tirent. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, dans le quartier où je suis, des gens qui étaient en train de crier au passage de ces policiers. Mais pour le moment, je peux dire que là où je suis, c'est un peu calme.
Bon, alors, il y a eu des attaques contre deux camps, le camp de Ngagara et le camp de l'ISCAM, qui est l'école des officiers de l'armée. Apparemment, les forces gouvernementales ont repris le dessus.
Il paraîtrait, parce que pour le moment, il est difficile d'aller sur place et de vérifier les informations qui sont diffusées par les autorités de Bujumbura. Mais toujours est-il que c'était vraiment intense au début de la matinée. Mais je ne peux pas vérifier. Il faut que moi aussi je me dirige vers ces endroits pour dire qu'il y a des insurgés, entre guillemets, qui auraient attaqué ces camps.
Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura. Plus tôt dans la matinée, au plus fort des combats, Jean-Roger Bion avait pu joindre Albin Isaac, un habitant de Bujumbura. Son témoignage.
Les tirs ont commencé vers les croisées du matin. Les camps ISCAM et l'Institut supérieur des cadres militaires a été attaqué et le camp Mohara de Bujumbura ainsi que le camp Ngagara. Jusqu'à présent, personne ne peut accéder à sa maison. Nous sommes tous à la maison. Seuls les militaires du camp présidentiel et la police de protection des institutions nous entourent et protègent surtout le palais présidentiel. Les tirs continuent, les bombes, les obus aussi continuent à sonner jusqu'à maintenant dans le cas de Moussaga, Nyakabiga, les gens de Nyakabiga.
Alors, qu'est-ce que les autorités ont annoncé?
La radio-télévision du Burundi, aucun message n'a été donné parce que ni les porte-parole, aucune autorité ne peut pas accéder à sa maison. Tous se trouvent à la maison. Aucun parti ne peut pas passer. Aucune personne ne peut pas passer dans la route. Donc, tous se trouvent dans la maison. Donc, vous comprenez que tous se trouvent dans les maisons et les bombardements continuent jusqu'à présent.
Est-ce que les militaires sont dans les rues?
Oui, pour nous, moi je suis à Kilili, donc nous sommes entourés par des soldats, donc les cas présidentiels et les policiers de l'appui. Donc ils essayent de protéger le palais présidentiel, mais les tirs continuent à se bombarder dans le quartier de Moussaga, Gasekebouyi et Nyakabiga, les gens qui s'y trouvent et crient au secours pour qu'il y ait un secours comme ça.
Albin Isaac, un habitant de Bujumbura. Ces combats sont les plus intenses depuis le coup d'État manqué des 13 et 14 mai 2015. Les ambassades des États-Unis, de Belgique, de France et des Pays-Bas ont demandé à leurs employés et ressortissants de ne pas quitter leur domicile. L'ONU en a fait de même concernant son personnel dans la capitale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram maintenant. Au Cameroun, au moins 7 civils tués ce matin dans un attentat suicide à Kolofata dans l'extrême nord du pays où le groupe islamiste nigérien est très actif. Un bilan confirmé par une source proche des autorités locales. Le kamikaze s'est fait exploser dans un lieu de vente de beignets. Et puis au Tchad, retour aujourd'hui à N'Djamena des 2000 derniers soldats du corps expéditionnaire tchadien parti début 2015 au Nigeria pour mener la guerre contre les djihadistes de Boko Haram. Les forces tchadiennes ont infligé de sérieux revers à leurs adversaires, mais elles ont également subi de fortes pertes. Un homme est déterminé, deux soldats tchadiens restent au Nigeria, mais cette fois sous le commandement de la force régionale formée par les États rivelins du lac Tchad et le Bénin pour lutter contre Boko Haram. Le président tchadien Idriss Déby Itno a accueilli en personne les forces tchadiennes à leur retour à N'Djamena. République centrafricaine, le projet de constitution de la 6e République soumis à référendum dimanche prévoit des références constantes à la corruption des dirigeants et à la prolifération des bandes armées qui ont abouti à la déliquescence de l'État et à des massacres intercommunautaires. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le texte de la nouvelle constitution stipule dans son article 24 que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'article 123 précise que cette disposition est expressément exclue de toute éventuelle révision ultérieure de la loi fondamentale. Ce qui est réellement nouveau, c'est la volonté de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Ainsi, l'affairisme devient un crime de haute trahison jugé par une haute cour de justice selon l'article 107 pour le chef de l'État, les ministres et les députés. La nouvelle constitution centrafricaine entend également lutter contre le fléau des bandes armées. La formation de milices sera jugée par la Haute Cour de justice et aucun groupe armé ne peut se transformer en un parti politique selon l'article 20. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut n'avoir jamais été membre d'une milice ou d'une rébellion armée. De même, toute personne qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie est interdite d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État.
République démocratique du Congo, le procureur général de la République a sollicité auprès de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité de 3 députés d'opposition qu'il veut poursuivre pour faux et usage de faux. C'est ce qu'a affirmé hier Aubin Minaku, président de la Chambre basse, lors d'une séance plénière. Cette affaire intervient alors que le climat politique en RDC est très tendu. Depuis plusieurs mois, l'opposition soupçonne le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de chercher par tous les moyens à contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter en 2016. En Angola voisin, 4 opposants jugés depuis 4 semaines ont entamé une grève de la faim pour exiger la conclusion rapide de leur procès. Le point avec Lionel Gavjima.
Les 4 militants font partie d'un groupe de 17 leaders politiques de la société civile arrêtés en juin dernier sous l'accusation de rébellion et de tentative de coup d'État. Ils sont tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui exige le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Dans une lettre ouverte au chef de l'État angolais, les militants avaient menacé d'entamer une grève de la faim si leurs interrogatoires n'étaient pas conclus en fin de semaine. Parmi eux, le rappeur Luati Beirao, dont l'époux s'inquiète de l'état de santé. C'est très difficile pour les prisonniers. Ils ont été en cellule d'isolement pendant près de 100 jours et ils ne voyaient le ciel qu'une heure par jour, a confié Monica Berayo à l'AFP, ajoutant que son mari était déjà fragilisé par une première grève de la faim. Les accusés nient toute intention de mener un coup d'État, assurant mener une lutte pacifique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Arabie Saoudite, fin hier de la campagne pour les premières élections ouvertes aux femmes candidates, mais les perspectives de voir les femmes élues samedi semblent très minces. Michel Joseph.
Plus de 900 femmes sont en lice face à quelques 6000 hommes pour siéger dans les 284 conseils municipaux du royaume, des assemblées chargées des rues, des parcs ou du ramassage des ordures. Ce scrutin est considéré comme un petit pas en avant vers l'égalité des sexes dans ce royaume ultra-conservateur qui était le dernier État à refuser aux femmes le droit de vote. Mais les Saoudiennes restent soumises à de nombreuses restrictions, comme l'interdiction de conduire, un cas unique au monde et qui pourrait empêcher une partie des électrices de se rendre dans les bureaux de vote. Oum Mohamed, qui habite à la frontière du Koweït, indique qu'elle ne pourra y aller que si son mari l'y amène ou si elle loue avec d'autres habitantes une voiture avec un chauffeur. Les Saoudiens ont déjà voté 2 fois pour des municipales en 2005 et 2011. C'est cette année-là, dans la foulée des printemps arabes, que le roi Abdallah avait accordé aux Saoudiennes le droit de vote et d'éligibilité. 2 ans plus tard, il avait nommé pour la première fois des femmes au Majlis al-Shura, un conseil consultatif. Malgré ces avancées, seules 130 600 femmes se sont inscrites sur les listes électorales pour le scrutin de samedi, soit environ 10 fois moins que d'hommes, selon des chiffres officiels.
Et vous terminez à la conférence sur le climat près de Paris. Prolongation jusqu'à samedi des négociations en vue d'obtenir un accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.